Vous écoutez Europe 1, il est 22h. Le journal, Élise Dangean.
Le mis en cause a tenté de s'attaquer à d'autres victimes qui ont réussi à l'éviter. Et malheureusement, il a atteint 3 personnes, dont une décédée.
Une attaque au couteau cet après-midi à Villejuif, en banlieue parisienne. Un homme a poignardé des passants, faisant un mort et 2 blessés. Les premiers éléments de l'enquête dans ce journal. La pression monte en Irak après la mort du général iranien Soleimani dans un raid américain. L'Iran promet de se venger. Washington envoie du renfort militaire.
Il faut changer de train. 9 fois sur 10, ce qui est prévu ne fonctionne pas. Mais on s'en sort quand même.
30e jour de grève contre la réforme des retraites, mais l'heure est à l'amélioration dans les transports. Une bonne nouvelle en ce week-end de retour des vacances. Et en ces 32e de finale de la Coupe de France, Bordeaux reçoit Le Mans au stade Matmut. Où vous vous trouvez, Jean Berthelot?
Oui, on joue depuis 5 minutes en deuxième mi-temps. Il y a 0-0 entre Bordeaux et Le Mans, mais les Girondins poussent pour tenter d'ouvrir le score.
Et puis comme tous les soirs, la bourse avec Didier Hameau de boursier.com. Pas d'invité éco pendant les vacances, mais une page culturelle. Thierry Dagiral reçoit le chef pâtissier Christophe Michalak. Enfin, on terminera ce journal avec les unes de la presse à retrouver demain dans vos kiosques.
Europe 1.
L'enquête se poursuit après l'attaque au couteau cet après-midi à Villejuif où 3 personnes ont été poignardées. L'une d'entre elles est décédée, 2 autres sont blessées. L'assaillant, lui, a été abattu par des policiers. Ses motivations restent pour l'heure inconnues. Le récit de Mathieu Bock.
Vers 14h, un homme se jette avec un couteau à la main sur un couple de quinquagénaires assis sur un banc. Le mari s'interpose pour défendre sa femme. Il meurt quelques minutes plus tard alors que son épouse, elle, est toujours hospitalisée ce soir en état d'urgence absolue. Puis l'assaillant se précipite sur d'autres passants en criant « Allahu Akbar ». Il blesse une jeune femme et aurait même pu faire davantage de victimes, raconte Laure Becchio, la procureure de Créteil en charge de l'enquête.
Dans son périple meurtrier, le mis en cause a tenté de s'attaquer à d'autres victimes qui ont réussi à l'éviter. Et malheureusement, il a atteint, comme je vous l'ai dit, 3 personnes, dont une décédée.
Et ce bilan aurait pu être plus lourd sans l'intervention des policiers, explique Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur.
Je voudrais saluer la réactivité des effectifs d'une BAC de la circonscription du Kremlin-Bicêtre, qui est compétente sur ce territoire, qui est intervenue très rapidement et qui a permis de neutraliser l'assaillant immédiatement, donc empêchant la poursuite sans doute d'un périple meurtrier.
Alors des éléments en lien avec la religion ont été retrouvés dans un sac appartenant à l'assaillant, des écrits en arabe adressés à Allah, laissant penser que le jeune homme était converti à l'islam. Mais il était inconnu des services de renseignement au titre de la radicalisation et même si le parquet antiterroriste suit l'affaire de très près, c'est le parquet de Créteil qui est chargé de cette enquête pour assassinat et tentative d'assassinat.
Mathieu Bock et puis Emmanuel Macron a adressé son soutien aux familles des victimes face à ce qu'il qualifie de violence aveugle. Également à la une de l'actualité, la tension qui monte d'heure en heure au Proche-Orient. Le risque d'embrasement y est plus fort que jamais après la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par les États-Unis dans une opération en Irak. Washington, qui justifie son opération contre le général iranien, affirme que le militaire préparait une opération menaçant la vie d'Américains. Sonia Dridi, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Donald Trump s'était jusque-là exprimé comme à son habitude sur Twitter et il vient enfin de prendre la parole publiquement.
Oui, depuis la Floride où il a passé les fêtes, Donald Trump s'est exprimé sur le raid américain contre le chef militaire iranien. Il a confirmé avoir donné l'ordre de tuer Qassem Soleimani, qu'il qualifie de terroriste. Selon le président américain, Soleimani planifiait des attaques contre des diplomates américains et du personnel militaire dans la région. Il lui a aussi reproché d'avoir orchestré l'attaque contre l'ambassade américaine à Bagdad. Mais il semble désormais chercher la désescalade avec l'Iran. Trump a déclaré que l'opération contre le général iranien avait pour objectif d'arrêter une guerre, pas d'en commencer une. Il a assuré que les États-Unis ne cherchaient pas un changement de régime en Iran. Un peu plus tôt, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait déclaré que l'opération contre Soleimani visait à empêcher une attaque imminente dans la région qui aurait mis en danger de nombreuses vies américaines. Les démocrates reprochent à Donald Trump de ne pas avoir demandé l'autorisation du Congrès avant d'agir et critiquent le manque de stratégie du président américain au Moyen-Orient.
Merci Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Alors cette frappe a suscité une vague de réactions dans le monde. La communauté internationale appelle majoritairement à l'apaisement et à la retenue. En Irak, les réactions sont vives également. Gwendoline Debono, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Bagdad, l'une des rares journalistes sur place, et vous avez pu vous entretenir avec les Irakiens.
Oui, quand la nouvelle s'est répandue, beaucoup dormaient, beaucoup ne l'ont pas cru. Puis lorsque la mort du général Soleimani a été confirmée, les jeunes manifestants ont brièvement laissé éclater leur joie sur la place. Un acte extrêmement dangereux ici, tant les milices iraniennes sont puissantes. Mais c'était inévitable, dit Tamar. N'oubliez pas qu'il est à l'origine de nos souffrances.
C'est lui qui prenait toutes les décisions, lui qui était aux commandes. À cause de lui, beaucoup de personnes ont été tuées, beaucoup d'enfants sont orphelins. C'est lui qui a fait qu'on a des centaines de martyrs dans nos rangs. Alors oui, quand on a entendu la nouvelle, on l'a célébré.
Ce n'est pas parce qu'ils ressentent un soulagement qu'ils sont naïfs. Tous les jeunes qui sont ici sous ces tentes, sur cette place, ont perdu des proches. Certains ont été kidnappés par les milices pro-iraniennes qui appellent aujourd'hui à prendre leur revanche. C'est pourquoi sur les visages, il n'y a aucun sourire, juste de la fatigue et de l'inquiétude.
J'ai peur et je ne suis pas heureux du tout. Ce qui est arrivé cette nuit en Irak, c'est la conséquence de problèmes entre d'autres pays. Et une guerre peut démarrer à cause de ça. Une guerre entre des pays qui vont se servir de l'Irak comme champ de bataille. Cette guerre ne devrait pas impliquer l'Irak et son peuple. On n'a pas besoin d'une autre guerre. Pas besoin de plus de sang irakien qui coule.
Avant l'hypothèse d'une guerre régionale, il y a l'instant présent. À tout moment, dit un manifestant, les miliciens, ivres de rage d'avoir perdu leur chef, peuvent descendre ici pour nous abattre.
Gwendoline Debono, envoyée spéciale d'Europe 1 à Bagdad.
Europe 1, le journal de la nuit.
Retour en France à présent, où les uns se montrent au travail quand les autres n'entendent pas baisser la pression. En ce 30e jour de grève contre la réforme des retraites, plusieurs ministres ont été convoqués par Édouard Philippe aujourd'hui. À l'ordre du jour, la situation dans les transports publics, mais aussi l'avancée des négociations. De leur côté, les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation le 11 janvier prochain. Malgré tout, le trafic ferroviaire s'améliore ce week-end. Demain, la SNCF prévoit 7 TGV sur 10, un TER sur 2 et enfin un intercité sur 3. Jihan Bergaoui, vous êtes rendu en gare de Montparnasse à Paris et vous avez rencontré des voyageurs plutôt souriants car ils ont une solution pour ce retour de vacances.
Sur le quai, à la descente du train, ils semblent détendus, reposés par leur semaine de vacances, mais soulagés surtout d'être arrivés à bon port, de retour à la maison dans la capitale. Nicolas et Ludovic, deux pères de famille, rentrent de La Rochelle.
On a dû jouer entre les annulations, les reprogrammations, mais on a trouvé une solution à peu près convenable.
On arrive vendredi, donc comme on reprend le travail lundi, on avait pris une petite marge, donc tout va bien.
Tout va bien aussi pour ceux qui attendent leur voix sous les panneaux d'affichage. Après un séjour en Thaïlande, Élise rentre chez elle à Bordeaux et sa maman Isabelle à Reims.
J'avais un train de base qui devait être vers 19h et j'ai reçu un mail peut-être il y a 2-3 jours en disant qu'il était annulé. Mais j'ai réussi facilement à retrouver un train, ensuite 17h10, du coup là normalement ça devrait être bon. Enfin bon, un peu déçu, du coup je suis obligée de repartir plus tôt, mais au moins je peux repartir.
En changeant, ça marche, mais il faut changer de train. 9 fois sur 10, ce qui est prévu ne fonctionne pas. Mais on s'en sort quand même. On s'adapte.
Adaptation, c'est bien le mot-clé de ces voyageurs et des usagers désormais rodés à cette grève des transports, même si tous espèrent un retour à la normale le plus vite possible.
Jihan Bergaoui en gare de Montparnasse pour Europe 1. Notez demain une légère amélioration aussi en région parisienne. Seules 2 lignes de métro seront totalement fermées. Côté RER, comptez 1 train sur 2 pour la ligne A et 1 train sur 3 pour la ligne B. La situation devrait toutefois se dégrader à nouveau dimanche, sauf pour les bus et les tramways. Bonne nouvelle également pour ceux qui comptent prendre la voiture en ce week-end de retour de vacances. Vous pourrez remplir le réservoir sans difficulté. Selon l'Union française des industries pétrolières, seul environ 1% des stations-service rencontrent encore des problèmes d'approvisionnement. Les difficultés en région PACA et en Île-de-France se résorbent. Une situation qui pourrait toutefois se dégrader la semaine prochaine puisque la CGT Chimie appelle à bloquer les raffineries du 7 au 10 janvier. Alors je vous le disais, le gouvernement s'est montré au travail aujourd'hui. C'est le cas notamment de Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie s'est rendu au chevet des commerçants ce matin rue Montorgueil à Paris. Il a été apostrophé par un des commerçants impactés par les 30 jours de grève. Pour lui, le timing du gouvernement est inapproprié. Écoutez l'échange capté par le micro Europe 1 de Yasmina Katou.
Décembre, c'est un mois où tous les commerçants, les petits commerçants peuvent travailler. Je ne comprends pas pourquoi vous avez choisi cette date.
C'est jamais le bon moment pour faire les grandes transformations.
C'est le peuple qui subit actuellement. Il y a une bêtise de certains et l'entêtement d'autres.
Comment est-ce qu'on sort de la bêtise et comment est-ce qu'on sort de l'entêtement ? Par le compromis. Un peu de bonne volonté et on y arrivera.
La bonne volonté, elle sera d'où ? De chez vous ou du peuple ?
Elle doit être des deux côtés.
Des deux côtés, mais je crois que beaucoup plus de chez vous pour essayer d'aller vers ce peuple qui souffre.
Elle doit être des deux côtés. Et si elle est des deux côtés, on trouvera un compromis, je vous le garantis. En tout cas, je le souhaite. La grève perpétuelle, ça n'est pas l'avenir souhaitable pour les Français.
Voilà Bruno Le Maire au micro de Yasmina Katou. L'affaire Matzneff prend un tournant judiciaire. La justice a ouvert aujourd'hui une enquête préliminaire pour viol contre l'écrivain de 83 ans. Une décision du parquet de Paris à la suite de la publication du livre Le Consentement dans lequel Vanessa Springora raconte sa liaison avec l'homme alors qu'elle avait 14 ans et lui 50. Pourtant, Salomé Legrand, on croyait les faits prescrits.
Et ce sera évidemment l'une des questions à laquelle devront répondre les enquêteurs. Pour Vanessa Springora, ce sera sans doute le cas, mais l'intérêt d'une telle enquête, c'est justement de dater précisément les faits, de les qualifier. Est-ce qu'il s'agit d'atteinte sexuelle ou de viol ? Le délai de prescription passe de 10 à 30 ans. Identifier les potentielles victimes, puis en fonction de leur date de naissance, vérifier donc s'il y a bien prescription ou non. Selon les faits retenus, la victime peut porter plainte jusqu'à ses 28 ou 48 ans, on compte à partir de sa majorité. Et puis, le parquet ne pense pas qu'à Vanessa Springora. Gabriel Matzneff n'a jamais caché ses multiples conquêtes mineures. Il a publié ses journaux intimes jusqu'à novembre dernier, donc des victimes plus récentes pourraient se manifester. Il avait également raconté des relations avec de tout jeunes garçons prostitués aux Philippines. C'est pourquoi les magistrats mentionnent des faits en France ainsi qu'à l'étranger.
Merci Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit.
Elle projetait de cambrioler le château de Fontainebleau. 6 personnes ont été mises en examen et écrouées pour avoir tenté de dérober plusieurs pièces du musée chinois de l'impératrice aménagées au sein du château. Des pièces rassemblées par l'empereur Napoléon III et son épouse Eugénie. Les suspects, pour certains déjà connus à l'étranger pour des faits de vol, ont été arrêtés fin décembre alors qu'ils s'apprêtaient à passer à l'acte. Le musée avait déjà été cambriolé en mars 2015. Et puis le Louvre, lui, se porte bien. Il a reçu 9,6 millions de visiteurs l'an dernier, un chiffre conséquent mais moins important qu'en 2018. Malgré tout, Diane Chenouda, le Louvre reste le premier musée au monde.
Oui, absolument. C'est la troisième fois de son histoire que le Louvre franchit la barre des 9,5 millions de visiteurs, ce qui est considérable. Mais le Louvre a quand même perdu 600 000 visiteurs en un an. Cela à cause des travaux de la salle de la Joconde qui a dû être déplacée, hein, vous le savez, cet été, ce qui a embouteillé le musée. Du coup, le Louvre a dû refuser du monde. 10 000 visiteurs de moins par jour cet été, soit une baisse de 20% de la fréquentation, nous confirme Jean-Luc Martinez, le patron du Louvre.
Je vous rappelle que nous avons pris la décision de déclarer le musée complet certains jours du mois de juillet et du mois d'août et que nous avons en effet donc pas accepté l'ensemble des visiteurs qui se présentaient devant nous. Donc les 600 000 visiteurs en moins de l'année 2019 par rapport à l'année 2018 se trouvent en ce mois d'été. C'est une révolution dans la mentalité, dans l'histoire des musées, hein, la volonté de miser sur la qualité de l'accueil, donc de ne pas accueillir toujours plus mais d'essayer d'accueillir mieux, ça a été le cas cet été.
Le Louvre qui recommande fortement du coup de réserver sur internet avant de venir au musée pour éviter l'attente. 50% des visiteurs le font déjà. Sinon, un visiteur sur deux a moins de 30 ans. Les touristes étrangers représentent 75% du public. En tête, les Américains et les Chinois, même si le public français reste le premier public.
Diane Chenouda du service culture d'Europe 1. Notez que sur le mois de février, toutes les visites de l'exposition Léonard de Vinci seront en nocturne, sauf le mardi, jour de fermeture du musée. Ce dimanche, ce sera le coup d'envoi de la 42e édition du Dakar. Cette année, la course change de continent. Après 10 ans en Amérique du Sud, elle se déroulera en Arabie Saoudite. Un choix dénoncé par les militants des droits de l'homme qui ne souhaitent pas que la réalité soit cachée par la compétition, comme nous l'explique Antoine Madelin de la Fédération internationale pour les droits humains.
Nous assistons en effet à une très large propagande des autorités saoudiennes
pour construire une image avec ces événements sportifs d'un pays moderne qui accueille des grandes manifestations et ainsi cacher l'image désastreuse qu'ils ont d'être une dictature responsable des violations parmi les plus graves aujourd'hui. Et nous sommes en effet stupéfaits de voir que des groupes publics comme France Télévisions ou privés comme le groupe Amaury restent silencieux sur ces situations-là. Comme s'ils étaient soit victimes, soit même complices de cette propagande du régime saoudien. Nous les appelons donc en effet à être beaucoup plus vocaux sur la situation des droits humains en Arabie Saoudite.
Antoine Madelin de la Fédération internationale pour les droits humains au micro Europe 1 d'Axel May. Et puis on termine ce journal avec du football. En ces 32e journée de finale de la Coupe de France, Bordeaux reçoit Le Mans au stade Matmut où l'on suit la rencontre avec vous Jean Berthelot.
Et ce sont les Bordelais qui mènent 1-0 après le but de Jimmy Briand à la 53e. La première mi-temps avait pourtant été équilibrée entre les deux équipes. Il y avait certes eu quelques poussées de Depréville ou encore du même Briand, mais à chaque fois Pierre Patron, le gardien sartois, avait repoussé leur tentative. Du côté du Mans, seul Stéphane Diarra avait fait un petit peu illusion et notamment sur contre, se procurant également quelques occasions. Mais globalement, cette mi-temps avait été dominée par les Marinés Blancs. Les Girondins, attention d'ailleurs à ce ballon dans l'axe pour Adinon. Les Girondins avaient dominé cette première mi-temps et en début de seconde période, à la 53e, donc ils ont bénéficié d'un pénalty pour une faute d'Aloïs Confé, l'ancien Troyen, sur Jimmy Briand qui s'est écroulé et qui s'est fait justice lui-même, qui a transformé ce pénalty et qui permet à son équipe de mener 1-0. Pour l'instant, ils ont le match en main, les Girondins de Bordeaux, mais attention parce que Le Mans reste évidemment à portée. Il reste 25 minutes à jouer, 1-0 pour Bordeaux.
Merci Jean Berthelot en direct de Bordeaux pour Europe 1 et on vous retrouve à 22h30 pour un dernier point sur le match. La météo tout de suite avec vous Marlène Duré et encore pas mal de nuages du sud-ouest au nord-est Marlène.
Oui Élise, surtout le matin puisqu'on va retrouver les résidus de la perturbation d'aujourd'hui, un ciel couvert donc pour débuter la journée du sud-ouest au nord-est avec encore quelques pluies fines ou bruines entre le Pays Basque, le Midi-Pyrénées, le sud du Massif Central, la région lyonnaise et la Franche-Comté. Des éclaircies perceront dans ces régions en cours de journée, pas partout. La grisaille peut persister par endroits. Notez que le ciel sera bien dégagé sur la partie centrale et est des Pyrénées. Prévoyez aussi de très belles éclaircies sur le quart nord-ouest, près de la Méditerranée et dans les Alpes, même si le ciel a tendance à se charger l'après-midi en Haute-Savoie et dans le sud de la Corse. Attention, Mistral et Tramontane souffleront fort en basse vallée du Rhône et autour du golfe du Lion. 70 à 90 km à l'heure. Les rafales commenceront d'ailleurs à faiblir dimanche avant la mi-journée. Les températures seront en baisse le matin comme l'après-midi. Les gelées referont leur apparition dans le nord. Quant au maximal, l'après-midi, eh bien, elles afficheront 5 à 10 degrés en général. 5 à Saint-Étienne, par exemple, ou encore à Nancy. Il fera 7 à Tours, 9 à Paris, 10 degrés à Cognac. Et puis un petit peu plus en Méditerranée, jusqu'à 15 à Montpellier et même 17 à Bastia.
Votre météo signée Marlène Duré. Il est 22h17. Restez avec nous sur Europe 1 à suivre dans votre journal La Bourse et une page culturelle. On se retrouve dans un très court instant.
Europe 1.
Europe 1. 2h18 sur Europe 1. On fait le point tout de suite sur la Bourse avec vous Didier Hamaud de boursier.com.
Oui Elise, avec Wall Street qui termine la semaine en baisse, une baisse assez nette après ses records d'hier. Logiquement, après l'escalade de la violence donc au Moyen-Orient, ça a calmé un petit peu les ardeurs des boursiers. On a un Dow Jones qui perd 0,8% ce soir, 28 635 points après son record d'hier. On se tasse un petit peu, moins 0,81% exactement sur le Dow Jones. Le Nasdaq recule de 0,79%, 9021 points. Il y a quand même un grand vainqueur aujourd'hui, c'est le pétrole. Sur cette situation très tendue au Moyen-Orient, on a un pétrole qui monte de 3,5%, le baril à 68,60 $ le Brent. Et puis l'or aussi retrouve ses niveaux de l'été dernier, valeur refuge, l'once d'or est à 1550 $. Les valeurs qui avaient bien progressé ces derniers jours, en particulier les valeurs exportatrices, les valeurs de technologie reculent logiquement, mais il n'y a pas de casse, mais il y a des baisses de l'ordre d'1% sur Apple. 297,50 $ ce soir, Intel moins 1,2%, Amazon moins 1% aussi avec Microsoft, Google moins 0,5%, Facebook moins 0,5% aussi. L'euro sur les devises recule légèrement, 1,1165 face au dollar.
Et Didier, la Bourse de Paris a un peu réagi à la situation internationale.
Oui, finalement, il n'y a pas eu de grands mouvements, même si ça a un petit peu baissé en séance. Finalement, on termine pratiquement stable sur le CAC 40, toujours au-dessus des 6000 points, en légère hausse de 0,04%, pratiquement rien, 6044 points, malgré cette situation internationale tendue. Quelques valeurs ont quand même été chahutées, mais ce sont des cas particuliers comme Air France KLM. La compagnie aérienne termine en repli de 8%, une forte baisse. Le marché craint aussi une reprise des grèves des personnels navigants chez Air France la semaine prochaine. Les valeurs cycliques qui étaient bien montées, les valeurs exportatrices redescendent d'un cran. Eramet, moins 4%, Imerys, moins 2%, Arkema, le chimiste, moins 2%, et STM. Du côté des puces électroniques, STM, moins 0,8% ce soir.
Alors, exception du jour toutefois, le secteur pétrolier a nettement progressé.
Oui, logiquement, le baril de pétrole monte et évidemment tout le secteur en profite. Le baril ce soir, on le rappelle, au-dessus des 68$, le baril de Brent. Ça veut dire que Technip a gagné 1,5% du côté des parapétrolières, 19,12€. Le groupe Total, plus 1% à plus de 50€. CGG, la parapétrolière là aussi, plus 1%, pratiquement à 3€. Donc le secteur pétrolier grand vainqueur du jour. Sur les autres places financières, ça baisse après les records ou les hausses des dernières séances. On se replie un petit peu à Francfort, moins 1,2%, à Bruxelles, moins 0,5%, Madrid aussi, moins 0,5%, Milan perd 1,5% aussi. Le CAC 40, on rappelle, donc pratiquement stable ce soir, plus 0,04%, 6044 points.
Merci Didier Hamot de boursier.com. On vous retrouve lundi soir sur Europe 1 pour un nouveau point sur la bourse. Et pendant les vacances, pas d'interview éco, mais on vous propose une page culture avec vous, Thierry Dagiral. Vous recevez le chef pâtissier Christophe Michalak pour parler galette des rois.
Avouez quand même que c'est un luxe de parler de galette avec le champion du monde de la pâtisserie. Bonsoir Christophe Michalak.
Bonsoir les amis, je suis en train de couper la galette, donc je suis très concentré.
Vous n'êtes pas venu les mains vides, il y a trois galettes, trois très belles galettes. Là, vous découpez ça à la pistache.
Alors voilà, pistache orientale en fait. Hein. Il y a un peu de lait d'amande, de fleur d'oranger, d'eau de rose. Ouais, je suis passionné par cette saveur. Ouais. On a la gianduja, donc noisette, praliné, et chocolat. Et puis la classique
recouverte de chocolat, ça c'est pas mal.
Et voilà, et la classique amande. Mais oui, elles ont une particularité, ces trois galettes, c'est que il y a quelques années, je travaillais dans un grand palace parisien et j'adorais les galettes. Mais en fait, à chaque fois, je les scalpais, c'est-à-dire que j'enlevais le dessus pour me concentrer sur la crème d'amande et la première couche de pâte feuilletée.
Et que nenni.
Si, en fait, moi, perso, qu'est-ce que j'aime dans les galettes? C'est un max de crème d'amande. C'est pour ça que dans mes galettes, c'est une technique particulière qu'on a mis au point avec mes équipes, on a juste un disque de pâte feuilletée et deux fois plus de crème d'amande. Voilà. Et c'est ce qui fait que elles sont particulières. En tout cas, elles sont comme, c'est comme ça que je les aime.
Donnez-moi une part pendant que vous parlez. Dites-moi.
Gianduja, très méchant.
Ça, c'est la pistache. Voilà, parfait.
Et une galette sans beurre, est-ce que c'est envisageable?
C'est pas négociable.
Non, d'accord.
Une autre question?
Non, ça va.
Prenez ceux qui nous écoutent, prenez un stylo, un papier. Comment on fabrique une galette des rois?
Alors, une galette des rois, c'est quand même compliqué.
C'est
deux éléments, en fait.
Pas alors, la Michalak. Hein.
Non, bien sûr. Ouais. Je ne peux pas vous la résumer comme ça, parce qu'il faudra vraiment des poids, des mesures, c'est très particulier. Mais c'est, en fait, tout simplement deux couches de pâte feuilletée. Ouais. Et à l'intérieur, on glisse une sorte de crème d'amande.
Mais c'est ça qui est important, en fait. C'est l'intérieur, c'est ça
qui
est important.
Oui, et plus la qualité de vos ingrédients sera noble et bonne, plus les amandes seront bonnes. Alors, éventuellement, en France, on a des très bonnes amandes en Provence. Plus la galette sera onctueuse, délicate et gustative.
On essaie de montrer en même temps la caméra. Hein. Vous pouvez regarder les images sur europe1.fr. Théophile Cossa, cette tradition de la galette des rois, elle nous vient d'où ?
Eh bien, figurez-vous, Thierry, que c'est une tradition millénaire apparue à l'Antiquité romaine. En fait, les Romains avaient pour coutume de déguster chaque année au moment du solstice d'hiver un gâteau renfermant une fève, gâteau partagé en famille, en l'honneur du dieu Saturne. Le recroqueur de fèves était fait roi ou reine.
Et je crois que c'était vraiment une tradition chrétienne, moi.
Eh ben, en fait, c'est plus compliqué que ça. La tradition a traversé les années. Les Romains, vous savez, sont progressivement devenus chrétiens. Puis l'Église a mis son nez dans la tradition, a imposé la date du 6 janvier pour la dégustation pour célébrer les rois mages lors de l'Épiphanie. La coutume a ensuite traversé les époques, les frontières. Louis XIV lui-même adorait, selon la légende, tirer les rois. Mais par contre, personne ne s'est jamais mis d'accord sur la recette officielle du gâteau des rois.
Christophe Michalak, c'est dans d'autres pays, il y a d'autres galettes des rois. C'est celle qu'on trouve en France traditionnellement.
Alors écoute, je pense que chaque pays a son histoire, mais c'est vraiment en France où, d'ailleurs, la pâtisserie rayonne plus qu'en France qu'ailleurs, parce que je pense qu'on a la chance d'avoir des gâteaux emblématiques et la galette en fait partie. Et pourtant, je vais te dire, moi j'aime bien travailler, enfin faire évoluer mon métier et donc faire évoluer un peu les choses un peu classiques, notamment la galette. Et je me suis fait très souvent taper sur les doigts parce que voilà, la galette, c'est
très basique. Vous ne respectez pas la tradition, c'est ça.
Si, je la respecte absolument.
Vous sortez du...
Sauf que moi, j'ai besoin de plus de crème d'amande et moins de pâte feuilletée. Ouais. Donc voilà, je la fais un peu différente, mais franchement, elle est assez canon.
Cette galette, on va la trouver dans vos pâtisseries ce week-end.
Oui, dans mes 4 pâtisseries
parisiennes. Vous en vendez combien?
Alors écoute, j'ai refait un check avec mes équipes. Là, en fait, pendant tout le mois de janvier... Ouais. On en vend pas loin de 2000 pièces.
2000 pièces.
Ouais.
Combien la galette?
Alors là, tu me colles une colle. Pourquoi? On est aux alentours de 40 euros, à peu près, pour 8 couverts.
Théophile Cossa, ailleurs dans le monde?
Alors, ailleurs dans le monde, chez nos voisins, la tradition, c'est bien implantée. Hein. Si ça vous intéresse, les Belges appellent ça la Drirkonin Gentart. Pour les Portugais, c'est le Polo Lei, une brioche en forme de couronne avec des pignons, des raisins secs, des oranges confites. Ça revient beaucoup, hein, cette tradition de faire des gâteaux en forme de couronne. Aux États-Unis, d'ailleurs, c'est le King Cake, c'est assez facile à retenir. En Grèce, tiens, c'est la Vassilopita, dans laquelle là, cette fois c'est une pièce de monnaie qui est cachée, qui portera bonheur à celui qui la trouve et qui lui caissera peut-être une dent aussi. Donc vous voyez, répandue un petit peu partout, chacun a sa tradition de recette, mais avec toujours cette même fève plantée dans le gâteau.
40 euros la galette, on s'est renseigné, dites donc. C'est pas donné à tout le monde, hein.
Alors non, on peut pas dire ça. Arrêtez de dire ça, c'est des conneries de dire ça déjà. Un, c'est le summum de la matière première à l'intérieur. Deux, c'est un travail faramineux quand même. Ouais. Ça se fait pas comme ça, une galette, ça se saurait. Et puis, n'oubliez pas, en fait, souvent, on pèse pas les gâteaux. Là, nos galettes sont extrêmement denses.
C'est vrai qu'elles sont lourdes. Ouais,
c'est un choix, voilà. On travaille avec de la pistache d'Iran, on travaille avec du jandujat et des noisettes du Piémont, on travaille avec de l'amande de Provence. Voilà, ça... C'est un mérite. Et puis attention, il y a une très jolie couronne, il y a un joli sac, il y a une jolie boîte.
D'accord.
On a toujours tendance à l'oublier, ça. Donc, il faut valoriser le métier d'artisan.
La part, c'est 4,50€. Je voudrais qu'on parle de vous, Christophe Milac. Votre histoire, elle est assez dingue, elle est assez intéressante. Votre maman travaillait la nuit.
Oui, aide-soignante la nuit.
Comment vous êtes arrivé à la cuisine? Rien ne vous disposait? Après, vous vouliez travailler dans les beaux-arts?
Oui, absolument. Écoute, je pense que j'ai voulu faire plaisir à ma maman et lui prouver que j'allais apprendre un métier et développer ma vie, ma carrière. Mmh. Alors, moi, j'adorais dessiner les Spider-Man, Captain America et compagnie. Je voulais faire les beaux-arts. J'étais trop jeune pour ça. Ouais. Donc, j'ai fait un pré-apprentissage, en fait, pour savoir qu'est-ce que je voulais faire. Donc, j'ai touché un peu à tout. Puis finalement, j'adorais les gâteaux.
Et vous commencez dans une pâtisserie d'un petit village.
D'un petit oui, on faisait des tartes au citron avec du pulque au citron, c'était mémorable. Ouais. Et j'avais, pour ceux qui comprennent ce que c'est, des balances Roberval. Tu vois, tu connais ça, là, tu mets des poids, il y a une petite balance. Et, hein. Donc on est seul loin de l'ère numérique, hein, très loin.
Et tout s'enchaîne, vous arrivez quand même Negresco.
Oui, Alice. Alors avant que tout s'enchaîne, il faut travailler. Travailler dur, faire ses gammes, et puis petit à petit, j'ai réalisé. Mon métier pouvait me faire voyager, donc j'ai pas mal bougé.
Vous dites une belle phrase, je trouve, la cuisine c'est un acte d'amour.
Mais oui, tu fais un gâteau pour les gens que tu aimes, ouais. C'est la base, de mon métier.
Il y a plein de recettes faciles dans votre livre, je donne le titre, hein, c'est la pâtisserie en famille aux éditions HarperCollins. On a l'impression que c'est compliqué, que c'est de la chimie et que finalement c'est un don où tu l'as ou tu ne l'as pas.
Alors, c'est compliqué, je ne vais pas vous mentir, mais il y a des raccourcis.
Ouais, c'est ce que vous dites,
on peut se permettre.
On peut se faire plaisir.
Bien évidemment, ouais. Il faut prendre en tête, il faut commencer à faire de la cuisine. Pardon. Si on veut faire simple, il faut penser une pâtisserie comme en cuisine. En cuisine, en fait, on a des ingrédients, on cisèle, on coupe, on poêle, on assaisonne, hop, c'est fini. Bon, la pâtisserie, c'est un peu différent parce qu'il faut transformer toutes ces matières premières, notamment les œufs, le beurre, le sucre et la farine. Donc, il y a tout un travail autour de ça. Si je vous propose de faire un Saint-Honoré ensemble à la maison, il va falloir quelques heures et il va falloir bien noter c'est un peu complexe. Mmh. Par contre, on peut faire... un riz au lait, on peut faire des cakes, des choses très simples, avec un minimum d'ingrédients et un minimum de choses.
Je prends au moins un riz au lait, 30 secondes.
Un riz au lait, comment je fais un riz au lait? Écoute, j'en ai fait un, dans mon bouquin, je le fais très simplement. Je cuis le riz à part, une fois qu'il est cuit, je le coupe, je le mets dans un saladier et je l'assaisonne en fait avec du mascarpone et du lait concentré sucré. Bim. Elle est pas belle, la vie.
Respect. En tout cas, vos galettes, on va les déguster maintenant. Sont à déguster tout le mois de janvier dans vos pâtisseries. Votre livre, La pâtisserie en famille, aux éditions HarperCollins. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce soir en direct sur Europe 1, Christophe Michalak.
Oui, c'est un plaisir, je repasserai.
Grand, grand merci, quand vous voulez.
Et merci à vous, Thierry Dagiral. Il est 22h29 sur Europe 1. C'est le moment de jeter un œil sur les unes de vos quotidiens. Qu'allez-vous découvrir demain dans vos journaux? Eh bien, on en parlait, Centre Presse aussi. Le quotidien de la Vienne offre sa une aux galettes des rois et plus précisément aux petits trésors qui se trouvent à l'intérieur. C'est une tradition. Centre Presse vous fait découvrir les fèves revisitées par les pâtissiers locaux. À la une du Figaro, de Libération ou encore de West France, la dangereuse escalade et le risque d'embrasement entre les États-Unis et l'Iran. Les trois quotidiens reviennent sur la montée des tensions après l'élimination du puissant général iranien Qassem Soleimani sur l'ordre de Donald Trump. Et puis enfin, le Figaro Économie fait le bilan du prélèvement à la source un an après sa mise en œuvre et il nous dit que c'est une réussite. Il est 22h30 sur Europe 1 et juste avant la libre antenne, on retourne voir Jean Berthelot au stade Matmut à Bordeaux. Bordeaux qui reçoit Le Mans.
Et ce sont les Girondins de Bordeaux, alors qu'on joue depuis 79 minutes, qui mènent toujours 1-0, un but de Jimmy Briand à la 53e minute. Les Girondins de Bordeaux qui ont le match vraiment bien en main. Ils ont été assez hésitants durant la première mi-temps, mais ils ont beaucoup plus pris leurs aises en seconde période. Ils dominent largement ces Manceaux, à l'image peut-être de ce centre d'Adli. Attention, parce que les Manceaux cafouillent dans la surface, ça va finalement être dégagé. Les Girondins donc maîtrisent leur sujet et pour le moment, ils se dirigent vers une qualification en 16e de finale relativement tranquille, tant les Manceaux ont eu peu d'occasions en seconde période. Bordeaux donc mène 1-0 devant Le Mans alors qu'il reste 10 minutes à jouer.
Merci Jean Berthelot en direct de Bordeaux pour Europe 1. Il est 22h31, l'heure de retrouver Sabine Marin pour la Libre Antenne. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Élise, j'espère que vous m'avez gardé une tranche de galette.
Absolument, il en reste, ne vous inquiétez pas.
Formidable. On vous retrouve dans une demi-heure pour le prochain point sur l'info.
Avec plaisir, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.